Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Yann Hamon. Il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Il est soutien de la liste Les Écologistes pour les Européennes, liste conduite par Marie Toussaint. Il est avec nous en direct ce matin. Je le remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
Alors on va parler ce matin d'Europe et d'écologie. Beaucoup d'Europe, beaucoup d'écologie. On parlera aussi du contexte. On va commencer par là si vous le voulez, dans lequel se déroule cette campagne électorale des européennes. Alors une campagne où l'on voit un petit frémissement du côté de la participation, ça reste timide, on l'annonce à 48%, c'est bien en deçà encore de ce que l'on pourrait espérer. Voilà, il n'y a pas encore d'envie d'Europe, si vous me permettez le jeu de mots, avec notre liste. Est-ce que le contexte dans lequel se déroule cette campagne électorale, qui est inédit, a pour vous un côté inquiétant, on pourrait le dire comme ça.
Alors le contexte,
politique,
médiatique,
voilà, médiatique également.
Ce que vous dites sur la participation, alors qu'il y a un petit frémissement, c'est peut-être intéressant. Effectivement, on sent que les électeurs commencent juste à s'occuper à la campagne. Alors nous, on y réfléchit depuis un long moment, évidemment, les partis politiques, mais les électeurs rentrent seulement maintenant dedans. D'autant plus qu'une bonne partie de cette campagne s'est faite sur des thèmes qui ne sont pas des thèmes réellement européens. On a assez peu parlé d'Europe. On a des gens qui sont leaders actuellement des sondages, là, qui sont donnés favoris, qui seront probablement devant, qui ne parlent pas de leur travail au Parlement européen, puisqu'ils ne travaillent pas au Parlement européen. On le sait pour Jordan Bardella, qui a, en 5 ans, dû déposer quelque chose comme 80 amendements, qui est recordman de l'absentéisme au Parlement. Bon, personne ne connaît, a priori, dans le groupe d'extrême droite. Il y a assez peu de gens qui le connaissent, puisqu'il vient pas très souvent. Bon. Et c'est ces gens-là qui ne parlent jamais d'Europe, finalement, qui n'ont pas vraiment de projet européen. On a pu le voir lors de ce débat assez curieux entre Attal et Bardella, où on voyait ce pauvre Bardella avoir beaucoup de mal à expliquer son histoire de double frontière. Alors, voilà ce qu'on propose comme projet, des doubles frontières. Marion Maréchal, elle dit triple frontière, Alban. Tout ça est assez déstabilisant, je pense, pour les électeurs qui savent l'importance de l'Europe pour nous, pour leur vie quotidienne, pour l'agriculture, pour la protection du climat, pour la protection de la biodiversité et de la santé, et qui se retrouvent avec une campagne où on a des espèces de duels qui préfigureraient un second tour catastrophique d'une éventuelle présidentielle, avec des choses bon, qui nous parlent des listes qui nous parlent énormément du conflit israélo-palestinien, qui est un sujet très important, mais qui évidemment n'est pas vraiment au centre des préoccupations de l'Europe et du Parlement européen, en tout cas dans des décisions qui seront prises par les parlementaires européens dans les 5 ans à venir. Donc là, on revient maintenant un peu plus avec nous, ce que proposons les écologistes, avec ce que proposent certaines autres listes, sur les sujets européens. Je crois que ça contribue aussi maintenant à montrer ce que fait l'Europe et à intéresser les gens à cette campagne.
Alors on va parler d'Europe, je vous le disais tout à l'heure, juste pour fermer cette séquence franco-française, si vous me permettez le terme, il y a l'expression également prévue jeudi du président de la République, Emmanuel Macron, il s'exprimera dans les JT de 20h de TF1 et de France 2 à l'occasion des 80 ans du débarquement. Dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale des européennes, à peine 3 jours du vote, ça prend une dimension particulière.
Oui, c'est assez étonnant, un peu scandaleux. Alors on profite, voilà, il est président. J'espère que tout ça sera décompté dans le temps de parole. Je crois que non, malheureusement.
Alors il y a une demande de plusieurs partis politiques. On pense à LR qui demande que ce soit décompté du temps de parole.
Voilà, mais même si c'est décompté, les autres listes n'auront pas une tribune équivalente. Donc tout ça est quand même assez démocratiquement questionnable. On a eu en plus le problème du service public et du duel organisé entre Bardella et Attal, donc ça fait quand même beaucoup pour essayer de nous faire croire que cette élection, ça serait un premier tour ou une primaire de 2027. On a d'autres partis à gauche qui essayent de se lancer là-dessus. C'est pas du tout le cas, hein. On va élire des députés européens qui vont prendre des décisions au Parlement européen. Et si on élit beaucoup de députés d'extrême droite et pas de députés écologistes en France, par exemple, et ben on va avoir une dégradation de l'ensemble des décisions européennes sur le climat, la biodiversité, on va avoir des lois sur l'immigration, enfin on va continuer à laisser mourir beaucoup de gens en Méditerranée, Quand on voit que l'ancien directeur de Frontex est sur la liste du Rassemblement National, et le bilan qu'on peut avoir avec le nombre de gens qui meurent en Méditerranée, c'est vraiment quelque chose d'assez scandaleux. Donc, cette intervention de Macron, je sais pas, peut-être que c'est pour venir présenter des excuses pour la dégradation de la note de la France et la politique économique qui est menée depuis 7 ans. Si c'est ça, après tout, voilà, là c'est intéressant. Si c'est pour venir parler de l'importance de la paix en Europe et montrer que c'est lui le seul Européen, enfin franchement, de qui on se moque ?
Alors il y a peut-être aussi l'envie de contrer le Rassemblement National, hein, qui est donné à 34% dans plusieurs sondages, on va dire entre 32 et 34, hein, voilà, selon les instituts de sondage. C'est quelque chose, j'imagine, qui vous préoccupe ?
Oui, bien sûr, mais contrer le Rassemblement National, malheureusement, on sait bien que c'est pas Emmanuel Macron qui contre le Rassemblement National. Il s'en nourrit, il a été élu deux fois parce qu'il avait Marine Le Pen en face. Et on a bien vu avec cette dernière loi immigration que finalement, il reprenait pas mal des thèmes du Rassemblement National. Choisissait cette stratégie-là pour essayer de le contrer. C'est une stratégie qui n'est pas très efficace, hein, quand on voit le score de Bardella actuellement. On a cru, et moi j'ai appelé à voter, on n'avait pas vraiment le choix en fait, hein, à voter Macron deux fois pour les dernières présidentielles. On a espéré qu'il y aurait quand même un barrage contre les idées d'extrême droite. On constate que c'est pas un barrage, que c'est un marchepied. Voilà.
Alors on va parler d'Europe, cette fois-ci, avec des propositions importantes. J'ai regardé un petit peu le programme, évidemment, parce que on a remarqué que, vous le disiez, hein, il y a beaucoup de réflexions autour de la politique franco-française. Alors moi, quelque chose a attiré mon œil dans votre programme, dans le programme que vous présentez, une Europe 100% renouvelable d'ici 2040. D'abord, est-ce que c'est faisable et on imagine qu'il va y avoir des résistances.
Alors, c'est un objectif ambitieux, hein, faut être clair, 100% 2040, ça veut dire qu'on y va à fond. Mais l'idée, c'est d'envoyer le signal aussi, hein, parce qu'on n'aura pas forcément... il faudrait 400 députés verts européens pour qu'on ait la majorité absolue, donc ça va être un petit peu difficile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette date de 2040 et l'importance que ça a. C'est-à-dire que si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut conserver une planète autour des 1,5°C, maintenant il faudra aller très très vite, très très vite. Donc peut-être que 1,5°C ça sera difficile, mais il s'agit de limiter le réchauffement climatique le plus possible. L'Europe a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus, c'est pour ça que quand on parle d'écologie, quand on veut réellement préserver les conditions d'habitabilité de la planète, hein, parce que c'est ça le sujet en fait, hein, le sujet principal de ces élections européennes, ça devrait être ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants qui naissent maintenant, bah, quand ils auront 25 ans, ils aient une planète à peu près en état? C'est ça la question.
Y a une question.
Les enjeux sont là.
Il y a une question vitale finalement.
Il y a une question qui est absolument vitale. Il ne s'agit pas d'être des oiseaux de mauvaise augure, il s'agit de regarder ce que nous disent les scientifiques et de voir que pour l'instant... Le pacte vert que les députés écologistes ont permis, la présence de 72 des députés écologistes la dernière fois à l'issue des élections de 2019, ce pacte vert que nous avons installé, il commence à être détricoté alors qu'on devrait accélérer. Donc le message 100% 2040 renouvelable, c'est l'accélération. Et les énergies renouvelables, l'un des gros mérites que ça a par rapport au nucléaire, c'est qu'on peut les installer beaucoup plus rapidement. On n'a plus vraiment le temps de... sans réfléchir aux questions par ailleurs de déchets, etc., et aux problèmes que ça pose, aux problèmes de sécurité à long terme aussi, dans un monde potentiellement plus instable. Il faut savoir ce que ça veut dire de mettre des EPR maintenant qu'on va installer, qui vont être en circulation jusqu'en 2100 peut-être, 2080, 2100, alors qu'on voit les tensions géopolitiques partout et les risques climatiques. Bon. Mais les renouvelables, on peut les installer très vite. Voilà, si on baisse le taux, on peut mettre un champ d'éolien comme à Saint-Brieuc. C'est en gros l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire, un peu plus. Ça peut s'installer. On a mis 12 ans pour le faire, mais on pourrait l'installer en 6-7 ans si on réduit les temps administratifs. Ça va beaucoup plus vite, donc ça permet de tenir les objectifs de réduction du carbone. Donc c'est ça l'importance.
Alors, on entend beaucoup de voix aussi qui disent « Oui, mais alors, l'éolien, il n'y a pas toujours de vent, ça ne fonctionne pas toujours, alors que le nucléaire, finalement, bien, ça fonctionne 24/7. »
Oui, alors, il y a toujours la question de l'intermittence, mais alors attention, ici, il n'y a pas de vent à un endroit, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent du tout partout en Europe, on ne met pas évidemment...
Je ne disais pas ça pour la Bretagne, on a quand même côté un peu venté.
Voilà, ça aussi, c'est des choses qui sont un petit peu techniques et on a des raccourcis et on a des fake news qui sont données par les lobbies du gaz et du pétrole assez régulièrement sur ces sujets, donc c'est un petit peu long à expliquer, mais typiquement l'éolien offshore, c'est 80% du temps que ça produit de l'énergie, 80-90% du temps. Alors ça produit pas le maximum, que ça peut produire, mais ça produit presque en continu. En fait, les moments où les éoliennes sont complètement arrêtées sont assez rares. Mmh. Donc évidemment, on dit toujours oui, mais c'est que 30% de rendement. Non, c'est que la puissance installée, on calcule que ça va donner, c'est une moyenne en fait, on sait que ça va pas donner le maximum. Sinon, ça serait pas d'ailleurs un demi-réacteur, mais ça serait un réacteur et demi, les éoliennes installées en baie de Saint-Brieuc. Donc, la question de l'intermittence, elle a importance, mais on a... En variant les sources d'énergie renouvelable, en utilisant aussi de la biomasse, en utilisant aussi du solaire, en développant l'hydraulique, évidemment, en utilisant le stockage, notamment ce qui va de plus en plus pouvoir se développer, c'est le stockage dans les batteries des véhicules au fur et à mesure que les véhicules électriques vont se développer. On a plein de solutions pour assurer la permanence du système.
Alors justement, les véhicules électriques, on va en dire un mot tout à l'heure. Alors juste un mot sur les ressources. Ici, on a près de la baie de Saint-Brieuc. Alors on va faire un peu plus local hein, pour nos auditeurs qui nous écoutent un peu plus loin. Il y a un ancien barrage, le barrage du Pont-Rolland, qui risque d'être détruit dans quelques années. C'est un petit barrage qui fournissait de l'énergie. Mais alors aujourd'hui, personne n'en veut parce que ça coûte cher à entretenir. Est-ce que c'est une mauvaise idée de détruire, par exemple, ce type de barrage?
Ah ben là, il faut réfléchir à la continuité des signes écologiques quand même et voir ce qui est le plus important. Dans le cadre, c'est très variable. Ici, on parle d'un très petit barrage qui fournirait de l'électricité si on remettait tout en ordre pour à peine 2000 habitants, puisqu'on parlait des éoliennes en Baie-de-Saint-Brieuc, c'est 800 000. Hein. Donc, si on veut faire des investissements lourds pour du renouvelable, il faut sans doute les faire ailleurs et plutôt là. Détruire, faire une échancrure dans ce barrage, c'est ce que proposent les écologistes pour laisser la continuité de l'eau. Parce qu'en fait, il y a un moment, si on veut éviter les inondations aussi, si on veut permettre aux espèces, là, il y a des truites, des saumons qui passent à cet endroit-là, de continuer leur migration et de pas être mises en danger. Il y a des anguilles, je crois, aussi pas mal sur cette, qui sont potentiellement menacées. Ici, c'est important de remettre le fleuve à sa place. En l'occurrence, la rivière, sa place, c'est dans le fond de la vallée, c'est pas ailleurs. Donc, la destruction l'effacement du barrage, en tout cas, une échancrure peut-être, et laisser passer l'eau, éventuellement garder, si c'est possible, le patrimoine architectural. Hein. Mmh. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tout raser partout. Mais on a plusieurs cas comme ça. On a un barrage aussi à la Flora, du côté de Pléneuve-Val-André, où on pense que c'est important de revenir aux méandres originaux des fleuves. Et c'est aussi comme ça qu'on ralentit le cycle de l'eau. C'est aussi comme ça qu'on va peut-être diminuer un petit peu la pollution, même s'il y aurait d'autres choses à faire. Et c'est des questions européennes, pour le coup, sur l'agriculture, autour des nitrates, etc. Voilà, donc... La production d'énergie renouvelable, il faut voir là où c'est le plus efficace et là où ça a le moins d'impact. En l'occurrence, pour les Côtes d'Armor, on a fait un gros effort déjà avec les éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Je pense qu'on peut éviter de reconstruire des barrages qui fournissent assez peu par ailleurs.
Voilà, je prenais ce cas emblématique justement pour avoir votre éclairage là-dessus. Les voitures électriques, alors aujourd'hui c'est pareil, il y a une grande polémique, on veut arrêter les moteurs thermiques en 2035, en tout cas la fabrication des moteurs thermiques pourra encore rouler avec nos... Alors j'allais presque dire nos vieilles voitures à ce moment-là, mais là aussi, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Parce qu'on parle aussi de la pollution des batteries et il y a aussi la question... où sont extraites les terres rares. On a ces exemples en Chine ou dans certains pays où on fait travailler des personnes qui sont détenues ou des enfants. Est-ce que là aussi il faut qu'il y ait une démarche globale autour de l'humanisation de la fabrication de ces batteries, savoir comment elles sont fabriquées? Est-ce que là aussi il y a quelque chose de déontologique à avoir au-delà de la pollution?
Alors voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sujets.
Voilà, c'est un vaste sujet.
Ouais, alors, il y a trois éléments de réponse. Un, pourquoi on parle de passer aux voitures électriques en 2035? C'est pas pour s'amuser, c'est parce que, en termes de climat, la voiture individuelle et les émissions des transports, c'est quelque chose comme 30% de l'ensemble des émissions. La voiture individuelle seule, c'est plus de 15%. Et le passage du thermique à l'électrique permet de diviser en gros par 2,5-3, ça dépend d'où la source d'électricité, je vous passe les chiffres, mais ce que ne savent pas les gens, ce que ne disent pas assez en fait finalement les défenseurs de la voiture électrique, même si nous, je vais y venir, on n'est pas forcément défenseurs de la voiture électrique, hein, mais les défenseurs de la voiture électrique devraient rappeler qu'un moteur électrique, en fait, ça a un rendement à peu près 3 fois supérieur à un moteur thermique. C'est-à-dire que quand vous utilisez une voiture électrique, pour faire le même nombre de kilomètres, vous utilisez 3 fois moins d'énergie pour la même puissance. C'est ça à la base. C'est ça qui n'est pas toujours bien compris. Mmh. Et ensuite, on cherche des comparaisons pour dire que c'est aussi polluant, voire plus polluant de faire de l'électrique. Et on rentre dans ce que vous avez dit sur les terres rares. Il y a assez peu de terres rares, voire pas de terres rares dans les batteries électriques. Faudrait voir, mais c'est quelque chose qui est un petit peu exagéré. Il y a surtout du lithium et du cobalt. Mmh. La fameuse histoire des enfants dans les mines, qui est essentiellement une fake news. Hein. Mmh. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est vendu par les lobbies du pétrole et les lobbies du gaz, les lobbies du thermique, pour dire, oh, regardez, c'est absolument dégueulasse, les défenseurs de la voiture électrique vous vendent quelque chose qui est produit par des enfants. En fait, ça concerne quelque chose comme 3 ou 4% de la production de cobalt faite dans des mines illégales, au Congo. Donc là, c'est le problème du Congo qui doit essayer de restructurer sa filière et le problème du manque de développement, parce que les parents qui envoient leurs enfants travailler dans des petites mines, c'est même pas vraiment des mines, c'est des trous très familiaux où les enfants grattent la terre. C'est pas du tout comme ça que les gros industriels produisent le cobalt. Faut pas du tout croire ça. Hein. C'est par contre dans des conditions environnementales pénibles, parce que le travail minier, là, c'est évident, l'extraction minière, c'est toujours polluant. Par contre, l'exploitation des enfants, c'est pas lié à la voiture électrique, c'est un autre problème, en fait.
Pour ça, je voulais vous entendre là-dessus, parce que c'est vrai, on voit cette information prendre un peu d'ampleur, de volume depuis quelques mois, depuis d'ailleurs, étonnamment, le lancement de la campagne.
Bah oui, mais c'est, voilà, bah ça, c'est de la désinformation, voilà, ça, c'est les lobbies du pétrole. Quelques puissances étrangères qui s'appuient beaucoup sur le pétrole, par exemple la Russie, qui diffuse ce genre de choses. Et puis, c'est relayé assez facilement par l'extrême droite. Jordan Bardella nous explique que, les voitures électriques en 2035, c'est pas possible. Pourquoi il fait ça ? Parce que les gens, étant un petit peu rétifs au changement, on voit qu'en ce moment, quand on rentre dans le dur dans l'écologie, ça peut provoquer des tensions. On a des débats sur BFM où on nous explique le thème du débat, c'est écologie, l'Europe va-t-elle trop loin? Alors évidemment, si on commence à poser le débat comme ça, alors qu'on est en retard sur à peu près tous les objectifs, hein, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va trop loin, c'est qu'on va évidemment trop lentement. Ça serait assez facile scientifiquement à démontrer si on se base sur des faits, sur des projections, sur l'état à la fois du climat, de la biodiversité, des sols, de la qualité de l'eau, des cancers pédiatriques. On verrait qu'on a un certain nombre de problèmes environnementaux quand même sur lesquels il faudrait qu'on accélère. Et au contraire, on vous dit, on va trop vite, c'est trop dur. La voiture électrique, et là encore, il va falloir quand même que j'explique que moi, je ne suis pas pour qu'on refasse 40 millions de voitures électriques, donc il va falloir que j'arrive à cet endroit-là quand même, parce que le but, c'est d'abord de faire de la sobriété.
Le transport collectif, finalement.
Du transport collectif, à plein d'endroits, il faut privilégier plutôt les solutions de mobilité active. Il y a tout un tas de centres-villes dont on doit faire sortir les voitures. Donc l'idée, pour atteindre nos objectifs climatiques, en gros, il faut diviser par 5 ou 6 notre production, nos émissions de CO2 liées au transport. Ça veut dire qu'on peut le faire 2,5 ou 3 en utilisant des voitures électriques plutôt que des thermiques. Il faut encore diviser le nombre de voitures à peu près par 2. Donc on devrait avoir ces deux objectifs comme ça en parallèle. Diminuer le recours à la voiture individuelle partout, c'est possible, parce que ça va faire aussi des économies aux gens, hein, c'est bon pour la santé. Quand vous passez au vélo, vous faites des progrès pour votre santé. Quand vous passez au transport en commun, vous faites souvent des économies par rapport à la possession d'une voiture individuelle. Mais c'est un changement d'habitude, une baisse de confort, et le Rassemblement National joue là-dessus en surfant sur des fake news complètement hallucinantes. Bon, ça, il y a pas besoin d'aller jusqu'au Rassemblement National. Moi, j'ai eu cette histoire d'enfants dans les mines au cobalt chez la vice-présidente de Saint-Brieuc-Armor Aglo, qui est l'UDI, qui m'a sorti ça en conseil municipal. Mais c'est aberrant. On a des responsables politiques qui renvoient des fake news comme ça. Bon, c'est
d'où le fait de recouper l'information, de la vérifier et d'entendre les principaux intéressés.
Vous avez vu comment c'est long de démonter une fausse information et comment c'est facile de dire c'est des enfants qui exploitent le cobalt dans les mines. Enfin,
vous l'avez très bien fait, Yann Hamon. Je voulais vous entendre. Alors, ça va nous amener un petit peu à l'économie ou aux économies ou aux difficultés des Français, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, les Français ont du mal à se chauffer, à se loger. Acheter une voiture, tenez, pourquoi pas électrique, parce que ça coûte cher. Il y a des dispositions gouvernementales, mais on a vu qu'il y avait quelques trous dans la raquette. Est-ce que ça aussi, ça participe d'une forme de réticence à passer à autre chose, parce que un investissement, investir dans une voiture aujourd'hui, c'est cher.
C'est pour ça qu'il faut aussi des moyens au niveau européen pour accompagner tout ça. C'est pour ça que nous, on propose un programme d'investissement massif. On n'est pas dans une période où on devrait être fixé, aller vers le pacte d'austérité là que nous ressortent les sociodémocrates et les conservateurs, on doit massivement investir dans la transition écologique. C'est un investissement qui sera rentable.
Faire sauter le verrou des 3% finalement au niveau de l'Europe.
Complètement sortir en tout cas les investissements liés à la transition écologique de ces 3%. Parce que ce sont des investissements sur l'avenir, ce sont des investissements qui sont extrêmement rentables quand vous faites de l'économie d'énergie, quand vous faites de la production d'énergie renouvelable, quand vous faites la transition du thermique à l'électrique dans le transport, c'est extrêmement rentable à terme. Simplement, l'investissement de départ est pénible, donc il faut et un peu lourd. Donc, une voiture électrique, typiquement, c'est plus cher à l'achat, mais très rapidement, sur le cycle de vie, ça coûte moins cher que l'équivalent en thermique. Évidemment que ça coûte moins cher. Les gens ne le savent pas parce qu'ils voient le prix d'achat et qu'il n'y a pas encore de voiture d'occasion, par exemple. Donc ça veut dire que ça, ça doit être accompagné. Si on met ça seulement à la charge des consommateurs, ça va être très très difficile. On peut aussi les accompagner à prendre un vélo électrique, surtout. Il y a beaucoup de cas où, où ça sera profitable pour eux. Ça demande un investissement, ça demande de se libérer, et nous c'est ce qu'on propose, de la règle d'austérité. Ça demande aussi de trouver des nouvelles sources de financement, c'est pour ça qu'on propose un ISF climatique sur les 0,5% des Européens les plus riches, ça c'est très important. Ça demande, quand on fait cette transition réelle, c'est-à-dire que ce basculement écologique, ça demande aussi de protéger systématiquement les plus pauvres. Il faut pas que ce soit ceux qui sont en difficulté financière qui se retrouvent à payer ça ou à devoir souffrir de taxes. Évidemment, quand on laisse des gens qui sont pas écologistes faire de l'écologie, c'est ça qui se passe. Et après, on nous parle d'écologie punitive, ça serait nous. Mais non, les gens qui mettent des taxes carbone, qui ont déclenché des gilets jaunes, c'est pas quand les écologistes étaient au pouvoir. Hein. Les ZFE sans concertation, sans solution, c'est pas nous. Hein. Attention, nous, on a on a des métropoles, par exemple, là, à Lyon, à Bordeaux, où les choses avance, où il y a eu des tas de pistes cyclables qui ont été déroulées, où les choses ont avancé très vite en termes de transport, etc. On n'a pas de plaintes incroyables et on a des budgets qui sont équilibrés, qui sont même, dans le cas de la métropole de Lyon, les plus équilibrés depuis assez longtemps. Donc, il faut absolument accompagner cette transition et c'est pour ça aussi qu'on propose nous le veto social, c'est-à-dire que aucune mesure qui soit prise au niveau du Parlement européen ne puisse dégrader les conditions de vie des plus précaires. Voilà,
protéger les plus pauvres, oui. Finalement. Il y a aussi la question aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en évoquant le Rassemblement National, alors on balait un peu tous les sujets, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des positions des écologistes sur l'immigration. C'est un sujet sensible s'il en est. Alors voilà, il y a plusieurs thèses, on en a beaucoup parlé à ce micro cet an dernier, mais qui s'affrontent. Est-ce qu'on doit renvoyer tous les demandeurs d'asile chez eux? Est-ce qu'on doit accueillir tout le monde? Ou est-ce qu'il faut avoir une harmonisation européenne et essayer de faire en sorte qu'on accueille mieux et bien les demandeurs d'asile?
Bon, déjà, l'accueil des demandeurs d'asile, c'est quand même une fierté normalement de la France et de l'Europe, de ne pas laisser mourir les gens qui sont poursuivis, qui ont des guerres chez eux. Enfin, l'asile politique, c'est quelque chose qui fait aussi la grandeur de la France et de l'Europe normalement. Donc laisser des migrants mourir en Méditerranée, on devrait tous être scandalisés. Je constate que pour certains, il n'y a pas beaucoup d'émotion là-dessus. C'est un carnage aussi et évidemment que on doit faire notre part dans l'accueil des gens qui peuvent plus vivre chez eux pour des raisons politiques, c'est une évidence. Bon, ensuite, bon, dire qu'on va accueillir tout le monde,
les mesures phares à prendre finalement, faut très vite régulariser ceux qui sont sur place, ceux qui sont arrivés. Faut aussi faire évoluer les mentalités, parce qu'on a des pays en Europe, sur les 27 pays, qui sont pas d'accord finalement. On pense à la Hongrie, pour accueillir des demandeurs d'asile, des migrants. Là aussi, il faut un peu, j'allais dire forcer le... j'allais presque dire tordre les décisions.
Ce qui a été décidé la dernière fois au niveau européen, c'était qu'il y ait un partage qui soit fait entre les différents pays, ou que certains pays qui ne veulent pas partager participent financièrement. Ça peut être quelque chose au moins temporairement d'utile, on ne peut pas
toucher
non plus complètement braquer. Bah oui, mais il faut que tout le monde participe à l'effort, évidemment, parce que l'effort d'accueil, il doit être réparti, il ne s'agit pas qu'il y ait un seul pays. Je précise au passage que contrairement à ce qui est ressassé par l'extrême droite, ce n'est pas forcément la France qui accueille le plus, on n'a pas des chiffres d'immigration, c'est faux, il n'y a pas une explosion migratoire, ça n'existe pas sur les dernières années. C'est l'Allemagne qui a fait un gros effort d'accueil au moment de la Syrie, voilà. Si les pays européens le font, il faut aussi ne pas complètement se mentir, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement de la population et qu'on a des besoins de main-d'œuvre. Donc il ne s'agit pas de dire, nous on est en Bretagne, Il ne s'agit pas de dire on ne va plus accueillir personne, alors qu'on a besoin aussi, actuellement dans l'agroalimentaire, voilà, demain j'espère plutôt dans l'agroécologie, dans la restauration on a besoin de main d'œuvre et on ne la trouve pas forcément. On a aussi besoin de médecins, d'infirmières, on voit qu'on n'en a pas formé assez et on en recrute. Et je pense que ces emplois-là, on est aussi content d'avoir des gens qui viennent sur notre territoire pour travailler, pour participer à la richesse nationale, pour remplir les collèges et les écoles en milieu rural, pour participer au financement de nos retraites. Il faut aussi dire ça. Et ensuite, si on veut éviter de se retrouver dans une situation, parce que je comprends les craintes de débordement d'une migration qui serait incontrôlée, et ben préservons
grand remplacement, on a entendu le mot.
Non mais ça voilà, c'est ça je vais pas commenter ça parce que c'est abject, mais si on veut éviter d'avoir un problème de déferlement de migrants et de réfugiés climatiques, et ben commençons par nous occuper des conditions d'habitabilité de la planète. Bon sang, il fait 50 degrés en Inde. Il fait 50 degrés en Inde actuellement. En Afrique, on va avoir des territoires où ça devient de plus en plus difficile. Donc, les gens qui favorisent le chaos climatique, pour ne pas le nommer dans l'ordre, Reconquête, le RN et les macronistes, ce sont, j'ai oublié Bellamy, mais qui lui aussi se bat contre le pacte vert et explique qu'il faut plus de... qu'il faut revenir en arrière sur les voitures électriques, etc. Ces gens-là favorisent l'immigration à long terme. Il faut bien comprendre ça, hein. Si vous n'avez pas une politique sérieuse sur le climat, là, pour le coup, on aura des réfugiés climatiques et on peut mettre tous les barbelés et les murs qu'on veut. Si les gens ne peuvent pas vivre chez eux, ils viendront à un moment. Donc, voilà. Si on veut que les gens puissent rester le plus possible, vivre chez eux dans des bonnes conditions, protégeons les pays du Sud, accompagnons-les et protégeons-les des conséquences de notre pollution à nous, parce que c'est ça, globalement, et réduisons notre impact carbone. Voilà.
Il nous reste trois petites minutes, je voulais vous entendre aussi sur cette Europe chahutée par la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine qui continue à attaquer l'Ukraine, fallait-il livrer des armes, fallait-il ne pas livrer des armes, faut-il finalement aller sur le terrain comme le préconise le président de la République, on a lu, parfois même dans la presse, j'allais dire le spectre d'une autre guerre mondiale alors qu'on commémore les 80 ans dans quelques jours de du débarquement, est-ce que ça aussi c'est une source d'inquiétude, est-ce qu'il faut, j'allais presque dire, blinder l'Europe pour ne pas être agressé?
Alors, en trois minutes, ça va être dur.
Ça va être dur, voilà, je comprends.
Sur Macron et l'envoi de troupes, justement, il faut qu'on ait une politique européenne et pas un président français qui, d'un seul coup, commence à nous dire on va envoyer des troupes sans concerter ses partenaires. Ça, c'est une forme de diplomatie qui est totalement inefficace, qui nous met en porte-à-faux d'une bonne partie de nos partenaires européens. Donc nous, on est favorable à ce qu'il y ait un effort, une construction de défense européenne, à ce qu'il y ait une armée européenne. On a proposé de commencer à mettre les premiers bataillons en place. Donc ayons une politique, une diplomatie commune, occupons-nous de nos propres intérêts, soyons moins dépendants si possible des Américains, parce qu'on voit que les Américains, en novembre, on aura peut-être des difficultés, voilà.
Le retour de Donald Trump qui est annoncé.
Ce qui serait assez terrible. Donc, avoir une construction de la politique européenne, oui. Soutenir l'Ukraine, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas en abandonnant l'Ukraine qu'on n'aura pas de guerre. Hein. Tous ceux qui vous disent il faut faire attention à ne pas avoir de guerre, il faut faire attention à ne pas provoquer la Russie. Si on cède systématiquement à toutes les avancées de Poutine, on va donner quoi après? Les États baltes, la Moldavie, la Pologne? On s'arrête où? Donc, de toute façon, il faut montrer notre solidarité avec l'Ukraine, montrer notre solidarité avec tous les États qui sont menacés. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va vers une troisième guerre mondiale. Il faut aussi quand même que les gens se rendent compte que la dissuasion nucléaire, ça marche dans les deux sens, que Vladimir Poutine n'attaquera pas un pays de l'OTAN puisqu'il ne souhaite pas que la Russie soit rayée de la carte. Parce que c'est ça que ça veut dire. Voilà. On a la France, hein, une dissuasion nucléaire qui permet de détruire quelque chose comme 60 ou 70% de la population russe. Donc, est-ce que vraiment on va vers une confrontation comme ça? Non. On voit aussi que Vladimir Poutine a beaucoup de mal à avancer en Ukraine. À partir du moment où on a soutenu l'armée, il faudra la soutenir davantage. On voit que l'avancée est lente. Voilà.
Voilà, l'exercice était dur en trois minutes. Yann Hamon, je rappelle que vous êtes co-secrétaire du groupe local Les Écologistes, Baie de Saint-Brieuc, soutien de la liste Les Écologistes, conduite par Marie Toussaint pour ces élections européennes. Et vous étiez là ce matin pour porter la voix de l'écologie. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci et belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.